Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, aujourd'hui on complète la trilogie de la pré-saison. Vous écoutez le podcast de Kebdo, c'est Adrien qui vous parle et vous l'aurez compris, si vous avez suivi nos deux épisodes précédents notamment, on va aller au bout de notre preview pour la saison 2020-2021. On va faire passer les 10 dernières franchises de la NBA sur le banc des accusés et pour rendre leur jugement aujourd'hui, deux personnes pour m'accompagner. Et on commence avec celui qui se délecte des performances de Talen Horton-Tucker en cette pré-saison. Ça lui permet de rappeler qu'il nous avait prévenu, c'est Alan évidemment. Ouais. Comment ça va Alan ?
Salut les gars, salut à tous. Ouais, je suis de cette team de « je l'avais vu avant tout le monde ». Comme avec ceux qui avaient vu Tyler Hero, paraît-il.
Et donc le troisième membre de notre trio du jour, si vous êtes sur YouTube, vous le voyez déjà. Il endosse les rôles de juge, de boss, de commercial, de directeur artistique chez De Kebdo. Il a encore beaucoup d'autres atouts dans sa manche évidemment, c'est Ben. Comment ça va Ben ?
Ouais, les gens ont surtout vu que j'ai délicatement retiré mes lunettes au début pour éviter le contre-reflet. Hein, ça... ouais.
Et voilà, on voit le directeur artistique qui fait attention aux détails. Donc messieurs, après les deux épisodes précédents, il nous reste donc 10 équipes à passer en revue aujourd'hui. 10 équipes, 10 questions donc, 10 procès. C'est la suite des previews de la saison NBA 2020-2021 sur Dunk Hebdo. Faites entrer la franchise, épisode final. C'est parti. Alors messieurs, je répète les règles rapidement puisque c'est quand même le troisième épisode de cette preview. Pour chaque franchise, on aura une question posée par un juge le plus impartial possible ou pas, on verra bien. Un avocat de la défense, un membre plutôt du reste de l'NBA qui va être plus critique, un procureur si l'on veut. Et pour commencer aujourd'hui, on en est à Oklahoma City et le juge c'est Ben, donc je te laisse la parole Ben.
Ouais. OKC, on va parler d'OKC, qui était une équipe l'année dernière au niveau des previews qu'on avait vu très très basse et qui avait surpris. Surprise. La question aujourd'hui, c'est au moins deux équipes finiront en dessous du Thunder à l'ouest. Au moins deux équipes en dessous du Thunder à l'ouest. Et celui qui va commencer en défendant l'équipe de l'Oklahoma, c'est Alan. Alors Alan, pourquoi OKC ne va pas finir ni 15e ni 14e à l'ouest?
Donc je commence déjà avec des gros dossiers. Moi, c'est ça que j'aime. On est là pour ça, les gros dossiers. Alors, pourquoi ils vont pas finir dans les deux? Parce qu'en fait, quand je regarde les mouvements et la stratégie qui a été prise par la franchise, oui, on a fait partir la plus grosse partie de l'effectif de l'an passé qui permettait que l'équipe soit bonne et qui a permis vraiment de surnager et de terminer limite avec l'avantage du terrain en playoff et donc de faire une vraie belle saison. Donc, plus Chris Paul, plus Gallinari, Steven Adams, puis Dennis Schroeder, c'est 4 des 5 meilleurs joueurs de l'année dernière. Sur le papier, bien sûr, en plus qu'ils sont pas vraiment remplacés, ça pose problème. Mais je vois quand même Sacramento et Minnesota. Et moi, Sacramento et Minnesota, ils ont, selon moi, un pouvoir de déflagration cette année qui pourrait faire que ça pourrait vraiment être une cata. Donc ça pourrait vraiment être une cata où à côté je me dis alors fort des George Hill, c'est pas des bons joueurs de play, c'est pas, ils ont peut-être déçu en playoff, c'est peut-être un rôle trop grand pour eux, mais sur de la saison régulière contre des mauvaises équipes ou des équipes moyennes, ils vont m'apporter un plancher. J'ai l'année 3 de Shai Gilgeous-Alexander, je pense que ça peut devenir ça sera le meilleur joueur de l'équipe, un vrai bon joueur. Il aura peut-être un rôle trop grand pour lui, mais je pense qu'il peut apporter des deux côtés du terrain. Derrière ces trois joueurs là c'est compliqué, je suis d'accord. Mais ils ont sûrement moins de talent que les Kings, que les Wolves, mais je pense qu'ils seront peut-être mieux coachés, plus de continuité, et que voilà, ça peut moins partir en saucisse que ces deux franchises-là. Même si voilà, moi je pense que ils ont tout intérêt à terminer dans les deux derniers en fait à l'Ouest. Mais je pense que Le niveau du plafond, vraiment, ils ont personne n'est à leur niveau. Ça peut pas être une bonne équipe, mais ils peuvent peut-être être plus sérieux que d'autres équipes. Donc c'est l'argument principal que je voudrais mettre en avant.
Je note pouvoir de déflagration, hein, la meilleure expression de
la formule
de ces débuts d'émission. Du coup, c'est toi, Adrien, qui va défendre ici les parties civiles. Alors pourquoi non, OKC finira dans les deux dernières places à l'Ouest?
Alors, je remercie mon camarade qui a déjà apporté un élément de réponse avec la perte de 3-4 des meilleurs joueurs d'Oklahoma City de l'année dernière. Donc, c'est déjà une vraie difficulté. Puis, on a entendu aussi parler de continuité. Quand on a perdu ces joueurs-là qui prenaient une très grande part des minutes, la continuité n'est pas si évidente que ça. Et effectivement, pour le coup, Oklahoma City, j'ai pu les voir un peu puisque en cette pré-saison, ils ont joué deux fois contre mon équipe à moi, contre Chicago. Et effectivement, c'est compliqué puisque même s'il reste des bons joueurs, notamment Shai, qui est effectivement un très bon joueur et qui sera le meilleur joueur d'Oklahoma City cette année, je suis bien d'accord, que George Hill et Alford sont des bons joueurs, qu'on peut penser que Lugendorf soit un joueur de NBA correct. Une fois qu'on sort des 4 meilleurs joueurs de cet effectif, ça devient beaucoup plus compliqué. Théo Maledon a montré de belles choses, c'est vrai, mais c'est un rookie, donc il y a encore beaucoup de travail forcément. Frank Johnson aussi est pas inintéressant. L'ami Poku est très très brut, hein. On a vu des flashs, mais c'est quand même très brut. Et le reste, c'est vraiment pas incroyable. Et je voudrais accentuer notamment sur la rotation intérieure, qui donc derrière Alford se compose de Mike Muscala, Isaiah Roby, encore Moses Brown. On a pu les voir se faire écraser par des Daniel Gafford, même si j'aime beaucoup mon cher Daniel Gafford. C'est vraiment très compliqué. Et effectivement, même si je suis d'accord avec.
Je peux rien répondre à ça.
Le niveau plancher en termes de risque, effectivement, il y a peut-être moins de risque d'explosion. Le niveau plancher est peut-être pas aussi bas que peut l'être pour les Kings ou Minnesota. Minnesota encore, il faut le dire, il faut l'assumer, hein, parce que Minnesota il y a des joueurs pour gagner des matchs de saison régulière qui peuvent gagner un match tout seul à Oklahoma City. Est-ce que Shai est de cette trempe-là? Peut-être pas encore. On peut l'espérer pour eux, mais ça me semble compliqué. Et donc effectivement, dans toute une saison régulière dans quand même quelques matchs, on va en voir, peut-être pas 82 mais peut-être 72, ça va être très compliqué pour moi quand même de dépasser deux équipes, les deux cités. Il y en a peut-être une qui explosera, qui sera en dessous, les deux ça me semble quand même fortement improbable.
L'argument du manque de profondeur, est-ce que vous avez une réponse Maître Guillou contre celui-ci?
Non, c'était l'argument que je redoutais de la part de mon adversaire qui a bien étudié le dossier. Les noms cités sont des noms qui de G League au mieux. Je pense que le roster sera mieux. Voilà, oui, il y a 8-9 joueurs, c'est un argument qui ira dans sa faveur aussi, que je lui donne, qu'il a pas réussi à glisser,
c'est gentil, il donne des conseils.
Il arrive pas à prononcer tous les noms des joueurs, c'est un manque de connaissance des dossiers. Et Pokusevski, monsieur.
Ouais, je me suis arrêté à Poku, oui.
Pokusevski, monsieur. Les rookies vont jouer, des joueurs de deuxième année. En fait, ce que j'aime bien avec OKC aussi, c'est qu'ils ont tenté des paris. Des joueurs qui de troisième ou quatrième année qui avaient été draftés, avaient un petit pedigree, ont du talent, mais ça a pas marché ça dans la première franchise, comme Frank Jackson, comme d'autres joueurs aussi. Ça, je pense que si ces joueurs-là sont bien coachés, bien mis en place, ça bien mis en confiance, ça pourrait fonctionner. Mais je vais pas mentir, moi je suis je suis de l'avis de mon confrère, mais j'ai accepté de défendre le cas d'OKC, puisqu'un avocat doit toujours, chaque accusé a le droit à sa défense.
C'est ça.
Et avec nos amitiés pour Pierre, évidemment, et nos amis du contre Air Thunder.
Je pense qu'eux, ils veulent perdre les matchs, hein, personnellement.
C'est ça, en fait. C'est quand la franchise veut en perdre, c'est un peu difficile de la défendre. Non, clairement, je suis d'accord avec Adrien, le prévenu, la défense était assez compliquée. Je suis d'accord. Enfin, OK, si clairement ils veulent pas gagner des matchs, leur roster est très très jeune. Ils ont évacué les joueurs d'expérience. Il y a peu de joueurs de rotation NBA confirmés. Donc non, même si on y reviendra, je suis pas d'accord avec toutes les équipes et les certains pouvoirs de déflagration. OK, si je pense à l'heure actuelle, l'Oklahoma est promis à une saison un peu compliquée. Donc point à mettre Adrien.
Bon, c'était pas le point le moins évident à remporter, mais je m'en satisfais quand même. Je vous remercie, mon cher Ben. Et donc, on va enchaîner avec la deuxième équipe du jour. Là, on va peut-être plus débattre. C'est Orlando qui arrive par la suite, puisqu'on continue dans l'ordre alphabétique. Le Magic d'Orlando. avec une question autour de l'effectif actuel d'Orlando. Est-ce qu'ils iront au bout de la saison avec ce matériel-ci? Et la question, pour être précis, c'est est-ce que Evan Fournier et Aaron Gordon vont finir la saison avec la franchise du Magic? Et donc, la défense, elle est du côté de Ben. Donc, pourquoi Fournier et Gordon vont rester en Floride?
Tous les ans. Tous les ans, on nous sort Aaron Gordon sur la trade deadline. Tous les ans. En fait, c'est un truc, tous les ans, le Magic est dit, est une équipe, un roster à trade. Je cite, je fais des guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast. Tous les ans. Alors, du coup, j'ai été regarder l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, John Hammond, depuis qu'il est là, le GM en 2017, il bouge jamais. Hein. Les trades à la trade deadline, il s'est passé quoi? Parce que clairement, là, vu que la saison va commencer dans quelques jours, on parlera de trade à l'intérieur d'une saison. Il s'est passé quoi récemment pour le Magic? Alors, à la trade deadline 2020, on a récupéré James Ennis en 2020. Oui, d'accord. On a récupéré Markel Fultz l'année d'avant. Et on a envoyé dans l'Arizona Elfrid Payton encore l'année d'avant. Il fait peut-être un trade, mais la magnitude de ces trades, elle est jamais immense. Aaron Gordon, commençons par Evan Fournier. Parce qu'Evan Fournier, c'est intéressant. On nous a dit que, voilà, il aurait des envies d'ailleurs. La rumeur est sortie un moment. Elle est sortie de Zach Harper, qui est un mec qui fait du stand-up hein, sur The Athletic, qui est pas vraiment un journaliste. Donc, clairement, on a vu depuis que Evan semble bien dans l'Orlando, il a voilà fait ses interviews d'avant-saison, et clairement, il veut progresser avec son équipe, même si, bon, on sait que c'est un peu la réponse médiatique. En tout cas, il est là. Dans l'environnement actuel, c'est un joueur qui sera certes intéressant pour certaines équipes au titre, mais d'un point de vue salarial, son salaire est un peu trop important pour faire un move à l'intérieur d'une saison. Aaron Gordon, je disais ça, je sais plus où, si le Magic voulait le trader, ça fait bien longtemps qu'il l'aurait fait. Le problème, c'est qu'Aaron Gordon, visiblement, du côté de la politique du Magic, on veut garder ses joueurs. Donc, je serais déjà surpris qu'un des deux parte, mais alors les deux, non, je n'y crois pas. Enfin, on y finiront la saison du côté d'Orlando, comme ils l'ont fait l'année dernière, et l'année d'avant. Tout simplement.
Très bien. Un beau réquisitoire de la part de Ben, avec une très belle attaque le tous les ans. Était très, 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 très fin, très, très bien senti. Du coup, eh bien, Alan, j'ai besoin que tu arrives à me convaincre que Fournier et Gordon ne seront pas du côté d'Orlando à la fin de la saison.
Alors déjà, le tous les ans, c'est faux, parce qu'ils ont déjà tradé Serge Ibaka à une trade deadline du côté de Toronto pour récupérer Terrence Ross et un pick. Donc, Serge Ibaka, c'était un joueur positif pour eux, qu'ils avaient récupéré dans le deal d'Oladipo donc après 2016, donc ça devait être la 2017. Alors, c'est après ce que mon adversaire a... C'était pas avec le même vraiment GM et front office, mais je le pointe quand même du doigt. C'est pas vraiment vrai par rapport à ce qu'a dit le fronto. C'est pas vraiment le même décideur, mais c'est la même franchise. Voilà. En fait, je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que dans l'accès au dernier strapontin de l'Est, donc le 6-7-8, on n'est plus dans la même... J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans la même optique que les trois dernières années, là où Orlando... Bah, en fait, Orlando, c'était quoi? C'était une moyenne équipe qui était assurée d'aller en playoff parce que le milieu de la conférence Est était moyen, assez moribond, et ça leur permet, je pense que ça leur allait d'aller en playoff. Il y avait une satisfaction à aller en playoff. C'est une franchise qui, ça a été très compliqué pour eux dans l'après Dwight Howard. Ils ont eu des hauts choix de draft, ça a pas marché. Donc peut-être, est-ce qu'il fallait vendre quelque chose de plus sérieux à la fanbase? En plus, en Floride, c'est pas non plus, avec de la salle et tout ça. Fallait être sérieux, je pense. Et là, est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, on a été sérieux pendant 3-4 ans, mais ça nous a amené où en fait? Ça nous a amené à nous faire défoncer premier tour après premier tour à la conférence Est. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas passer à autre chose? Et donc, ce qui a été dit par Ben est vrai sur le salaire d'Evan Fournier, mais je fais toujours confiance à certains general managers pour faire un mouvement de panique à une trade deadline. Qui plus est, dans une saison assez raccourcie, une saison où... Il y a quand même des équipes qui se sont vraiment renforcées. Il y a des agents libres qu'on pensait pouvoir être disponibles plus tard, qui ont l'air d'être bloqués maintenant avec des nouveaux contrats. Donc, ça m'étonnerait pas que, moi, c'est un peu les deux équipes que j'ai identifiées, c'est Orlando et Indiana, soit peut-être plus vendeur qu'acheteur à la trade deadline, alors que depuis 3-4 ans, la position de juste on fait les playoffs et on est une équipe sérieuse allait au front office, à la fanbase. C'est pas du tout le même fonctionnement de franchise, mais je fais un petit rapprochement sur la construction d'effectifs. Quant à Aaron Gordon, le seul point positif pour lui, c'est que Isaac est blessé. Et donc, en fait, les problèmes de fit sont un peu mis de côté cette année parce que, bah, il va plus jouer à sa position. Mais Aaron Gordon, c'est un joueur qui fait rêver, enfin, fait rêver. L'idée d'Aaron Gordon est très intéressante pour beaucoup d'équipes. Et je pense que, bah, ils ont drafté un poste 4 il y a 2 ans, qui a pas joué l'année dernière et qui, va jouer cette année, donc, au Chuma Okeke. Ils ont l'air de vouloir lui donner des minutes dans ce qu'ils ont dit. Il y a Mobamba, il y a beaucoup d'intérieur pour pas assez de minutes. Et je me dis que voilà, s'ils peuvent récupérer un choix de draft, s'ils peuvent récupérer un joueur sur les ailes, ils le feront. Peut-être pas les deux, je serais surpris, mais je pense qu'un des deux sera tradé.
Maître Ben, est-ce que vous avez une réponse, notamment sur ces moves de fin de trade deadline, disons?
Oui, c'est pas le même front office, donc comme il a dit mon adversaire, tout simplement. Alors par rapport à Jonathan Isaac, je suis d'accord, il est pas là, et je pense justement que Aaron Gordon, on l'attend, voilà, c'est un peu le mirage depuis pas mal d'années, son explosion. Bah là, il a un peu, tout est réuni, c'est un grand mot, mais au moins là, il a un contexte un peu plus favorable pour lui. Deuxième chose, c'est vrai, il pourrait bouger. Le problème, c'est que oui, il y a un changement au niveau de, avec 7-8, avec l'introduction du play-in, ça change. Le problème, c'est que si on échange Evan Fournier, c'est vraisemblablement dans une équipe qui visera quelque chose, donc on récupérera pas un joueur de la même valeur. Donc déjà, on perdra en niveau. Deuxième chose, Aaron Gordon, on l'envoie souvent, par exemple, au Timberwolves ou dans des jeunes équipes, où là, on récupérera du potentiel, pas quelque chose de concret. Donc, si l'objectif du Magic, c'est de continuer à faire les playoffs, et ils en ont les possibilités, alors certes, avec le play-in, ça se complique peut-être un peu, ça n'aurait que très peu de sens d'échanger ces deux joueurs qui vont être cette année deux des trois meilleurs joueurs d'effectif.
Très bien. Vous voulez dire ajouter quelque chose, Maître Alan, ou...
Moi, je pense que ils sont arrivés peut-être à une fin de cycle et que si je pouvais les conseiller, ça serait d'être intelligent de plus vouloir faire les playoffs pour faire les playoffs. Et s'ils font ces moves-là, ça serait une indication qu'ils vont dans ce sens-là. Donc, c'est une projection. On verra s'ils font appel et s'il y a un procès, le procès est rejoué dans 2 ans dans une autre cour s'ils ont suivi ces conseils.
Très bien. Ben justement, moi j'étais un peu comme ça, je suis un peu de cet avis Alan, où effectivement il y a peut-être un cycle qui va arriver au bout, mais manifestement, et l'argumentaire de Ben était très bien construit à ce niveau-là, on n'a pas l'air d'en être là. Si on avait fait ce choix, on l'aurait peut-être fait déjà à l'intersaison, parce que si en cours de saison on décide d'enlever Fournier Gordon, ou l'un ou l'autre, on va perdre plus de matchs, mais peut-être pas assez pour être vraiment dans la course au pic, etc., donc ça me semblerait... En tout cas, j'ai trouvé l'argumentaire de Ben bien construit, donc je vais lui donner ce point, même si de base, je partais plus avec un biais, et je suis encore un peu dans le biais d'Alan.
Voilà, je suis donc un mauvais avocat avec les bonnes idées. C'est à moi. On va passer aux Sixers. Gros, 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 gros
dossier. Il le dit avec regard, avec une tête de mort.
Gros, 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 gros dossier Sixers, les amis. Donc, c'est moi le juge. Les Sixers gagneront-ils un trophée, donc soit individuel, soit collectif, cette année? La parole est à la défense, la personne qui pense que oui, ça va se passer. Et c'est toi, Ben Jour.
Jamal Crawford, 2014. Jamal Crawford 2016, Lou Williams 2018, Lou Williams 2019, Montrezl Harrell 2020. C'est quoi le rapport entre tous ces joueurs? C'est le sixième homme de l'année. C'est quoi le rapport entre tous ces joueurs? C'est Doc Rivers. Alors oui, on n'est pas obligé de rêver à un MVP. Un coach de l'année, ça me semble un peu difficile quand on voit ce qui se passe actuellement. Mais première chose, j'y reviendrai quand je répondrai à mon adversaire plus tard, il y a déjà 10 trophées en NBA. Donc concrètement, c'est déjà pas mal de chances d'en choper un. Passons. Je crois en Shaq Milton comme sixième homme de l'année, parce qu'il a le profil pour ça. C'est un pétard, c'est du backcourt, c'est exactement ce qu'aiment les mecs qui votent pour le sixième homme de l'année, c'est-à-dire qu'ils regardent une seule catégorie statistique, c'est le nombre de points marqués. Ce qui peut être largement fait dans une équipe des Sixers où le backcourt a été remanié et où je pense Doc Rivers a un peu cette habitude, il l'a dit dans certaines déclarations depuis qu'il est à Philly, de faire beaucoup jouer des mecs sur l'extérieur et de leur demander de marquer beaucoup de points. Première chose. Ça, c'est déjà mon favori à moi. Ensuite, faut pas oublier que les Sixers ont quand même une identité défensive assez marquée ces dernières années. Alors, il y a deux monstres, Giannis Antetokounmpo et Rudy Gobert. Pour moi, c'est pas le trophée que je les vois, selon moi, c'est pas le trophée le plus simple à avoir pour eux. Mais il n'empêche que Ben Simmons et Joel Embiid sont toujours placés pour le défenseur de l'année. Est-ce que c'est peut-être l'année où ils vont le gagner? Pourquoi pas? En tout cas, Shaq Milton est un joueur qui pourrait gagner le sixième homme de l'année. Et Doc Rivers nous a montré l'habitude de faire gagner des sixième hommes de l'année aux mecs de son effectif. Donc, je crois au trophée individuel, celui-ci, pour les Sixers cette saison.
Très bien. La parole est à Adrien qui pense qu'il n'y aura pas de trophée, soit individuel, soit collectif, du côté de la Pennsylvanie.
Je tiens à saluer l'habileté de mon adversaire. Je ne m'attendais pas forcément à aller chercher le sixième homme de l'année du côté de Philadelphie. Alors effectivement, sur les autres, je suis d'accord, la concurrence semble compliquée. On a beaucoup parlé de l'équipe de Philly qui se tournait vers la défense. Cette année, il y a quand même eu des choix faits pour rééquilibrer peut-être un peu l'équipe, avec notamment l'ajout de shooter, Danny Green d'une certaine façon, mais notamment Seth Curry. Donc je pense que ce sera un peu différent et que... du point de vue de l'attaque, ce sera compliqué pour un sixième homme de se démarquer vraiment et de marquer autant de points que certains autres favoris pour le sixième homme de l'année, parce qu'on peut penser, alors Louis, il existe toujours, bien sûr, mais il y a un Dennis Schroeder qui a le profil parfait cette année, un Tyler Herro selon ce qui va se passer à Miami, encore des D-Rose, des Gallinari qui vont avoir des minutes de titulaire en ayant un apport en sortant du banc et en ayant un apport conséquent, peut-être même le chouchou de notre cher Madian, Michael Porter, qui pourrait se retrouver également dans cette situation. Je pense qu'il y a plus de profils dans les autres équipes de scoreurs. Souvent, le sixième homme de l'année, c'est un fort scoreur en sortie de banc. Et je suis pas sûr que Shaq Milton soit à ce niveau-là encore sur cette saison. En tout cas, j'estime que la concurrence sera beaucoup plus forte. Et même si le coach peut l'aider, et que je pense notamment à Schroeder, qui est dans la position parfaite du côté des Lakers, on va peut-être reposer un peu plus les stars, vers plus de minutes, là où du côté de Philadelphie, je pense qu'on va vouloir essayer de faire jouer tout le monde et d'essayer de mettre en place cette nouvelle attaque autour de ces shooters. Donc ça me semble compliqué pour le sixième homme de l'année et rapidement, effectivement, pour le défenseur de l'année, Embiid est toujours très bon. Mais comme je le disais, on se tourne un peu plus vers l'attaque. Il y a eu aussi l'arrivée de Dwight Howard, donc on va pouvoir avoir d'autres rotations à l'intérieur et peut-être qu'il aura moins de minutes et que son impact défensif sera moins flagrant, en tout cas visuellement. Et c'est ce qui joue souvent, on le sait, pour les trophées en NBA, l'impact visuel sur les gens, sur les journalistes, sur les votants en tout cas. Donc je pense que ce sera quand même très compliqué pour Philadelphie.
Droit de réponse, Ben.
C'est vrai que Shaq Milton n'est pas favori. Alors ça, je vous l'avoue. Après, Tyler Herro a commencé 8 matchs la saison dernière et on est tout près de... Enfin, le voir titulaire serait pas fou. Alors, à voir ce qui va se passer au niveau de... Enfin, bref, James Harden, etc. Lou Will a 34 ans et Lou Will continue à être Lou Will. Alors, certes, pour les votants, visiblement, ça leur plaît, vu qu'ils donnent de valeur qu'au point, mais ça devient compliqué. Puis, nouveau coaching de Tyronn Lue, est-ce qu'il y aura pas la volonté de casser un peu ce qu'a mis en place Doc Rivers, c'est-à-dire de faire toujours avoir un sixième homme très fort? Enfin, Dennis Schroeder, alors, il le fait à chaque fois qu'il atterrit dans une nouvelle équipe, mais il a affirmé sa volonté d'être dans le 5 titulaire. Alors, est-ce qu'il va l'être? Je sais pas, mais le banc des Lakers est tellement fort, ils vont se marcher sur les pieds, en fait. Donc, je crois vraiment à mon petit Shaq Milton comme Six Man of the Year.
Très bien, j'entends. Je ne répondrai pas très longuement. J'entends essayer de défendre les 3K, mais ces 3K-là, il y en a d'autres. On a évoqué D-Rose, Gallinari, etc. Que tout se passe derrière Shaq Milton me semble hautement peu probable.
Franchement, pour l'audace, Ben. Et en plus, de base, je suis d'accord avec lui. Pas vraiment sûr, mais moi, je vois vraiment potentiellement Joel Embiid gagner le titre de meilleur défenseur de l'année. C'est quelque chose qui pourrait se faire, je pense. Son impact défensif.
Je m'attendais plus à cette attaque-là, honnêtement.
Son impact défensif est tel, mais.
Je vais vous prévenir, je suis déchaîné sur l'épisode-là. J'ai tapé des angles que vous n'avez même pas imaginé.
Mais la hype Shaq Milton assez présente sur Sixers Twitter depuis dernièrement sera ravi d'apprendre ça. Mais ouais, non mais c'est assez vrai, il a le profil, c'est un scoreur micro-ondes, c'est un scoreur qui va marquer des points sur petit temps de jeu. On va regarder les box scores, on va le voir entre 15 et 20 pas mal de fois, On va voir s'il va, je pense, avoir des responsabilités avec la seconde unité, surtout ce qu'on aime quand on cherche un potentiel sixième homme. Alors, c'est pas le titre que j'aurais été chercher. Comme tu as dit, Ben, il y a beaucoup de titres. Je sais pas si au vu de son titre, Daryl Morey est candidat au titre de Executive of the Year. Faudrait regarder si c'est lui ou si c'est Brandt du côté de Philly. Il aurait pu peut-être, si ça se passe très très bien, il pourrait peut-être être et qu'ils font venir un certain barbu, ça pourrait peut-être aussi se faire.
Pour l'executive of the year, je dis juste, j'ai une théorie un peu fumeuse, mais ils vont le donner aux Nets, parce qu'avec un an de décart, en fait.
Ok. Ouais, à Marx. Ouais. Pour l'ensemble de son œuvre, même peut-être sur, mais, non, en fait, je vais donner le point à Ben, parce que d'abord, j'étais d'accord avec lui, et en fait, quand on fera nos petits trophées, spoiler, je vais voter pour Embiid en meilleur défenseur de l'année. Et en fait, j'aime bien la hype shake Milton. Je suis un bon client de ça.
Je savais que j'allais le convaincre avec un qui tire.
Ouais, complètement. Un petit qui tire en sortie de dribble. Les gars, c'est encore à moi d'être juge là pendant. Je vais être juge trois fois de suite. Je vais vous laisser vous écharper sur des bonnes équipes en plus, des équipes intéressantes. On va passer à un gros acteur de l'intersaison. Ils ont réussi à trader pour Chris Paul. C'est les Suns de Phoenix. Et la question, c'est je m'attendais pas à cette question. C'est une question intéressante. C'est pas de mon idée, mais elle est super intéressante. Est-ce que à Phoenix, c'est déjà la dernière chance pour DeAndre Ayton, qui, je rappelle, était le premier choix de la draft en 2018.
Elle est osée.
Elle est très osée. Qui rentre donc dans sa troisième saison, sachant qu'il a raté des matchs pour des problèmes dans ses deux premières saisons. La parole est à la défense qui pense que non, c'est pas la dernière chance pour DeAndre Ayton. C'est toi, Adrien.
Et oui, cette fois-ci, je vais passer du côté de la défense. Et le mot qui me semble intéressant dans la question, c'est dernière. Je pense que c'est très précipité de parler de dernière chance. J'ai presque envie de parler de première chance. Alors, c'est un peu exagéré, mais comme tu l'as dit, DeAndre Ayton a eu quelques soucis de blessure de match joué. Je pense que là, ça ira, j'espère en tout cas pour lui que ça ira beaucoup mieux. Et surtout, c'est la première saison pour DeAndre Ayton avec un vrai meneur, tu l'as dit, avec Chris Paul, un meneur vétéran. Et justement, il n'est pas l'heure de griller les étapes du côté de Phoenix. Pour l'instant, Ayton était un peu en observation, en roue libre en tant que lieutenant de Booker. On a pu voir ce dont il était capable. C'était quand même sur un échantillon relativement faible, c'était quand même très, très bien. Il est vrai que du coup, il va être attendu avec cet apport de Chris Paul. On attend de voir ce qui va se passer. Mais même si par malheur, Ayton fait une saison moins bonne, ce dont je doute personnellement, même s'il maintient un 15-10 constant en jouant son rôle et que Phoenix gagne plus de matchs, ce à quoi on peut s'attendre, je pense qu'il n'y a aucune raison de déjà tirer un trait sur son association, notamment avec Devin Booker. Et justement, on va pouvoir cette année enfin évaluer quels sont les aspects du jeu de DeAndre Ayton qui peuvent s'inscrire dans cette NBA de 2020 avec un véritable meneur, avec un système qui est peut-être plus cohérent avec ce qui se fait maintenant. Et je pense qu'on est plus sur un début d'évaluation, enfin en tout cas des confirmations, que déjà tirer un trait, surtout sur les pivots. Et ça, c'est l'argument facile qui était attendu, je l'imagine, mais il a ressorti à chaque fois. Les pivots vont généralement mettre un peu plus de temps à arriver à leur plafond. Donc je ne pense pas que du côté de Phoenix, on se dise c'est maintenant ou jamais. Même si on a fait 8-0 dans la bulle, on n'en est pas encore là. On en est à progresser tranquillement, notamment grâce à Chris Paul.
Ben, pourquoi c'est maintenant ou jamais pour le Bahaméen?
Alors, premier choix de la draft. Vous l'avez dit, premier choix de la draft. Donc quand on choisit un joueur premier choix de la draft, je pense qu'on attend de l'impact assez rapide. Et en l'occurrence, quand on regarde dans notre DH20 ou un peu plus, quand on étire un peu le DH20, les pivots dominants, qu'on prenne les, si on met pivot Anthony Davis, Nikola Jokic, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, etc. Année 3, ils sont dominants, en fait. Certains l'ont même été avant, la plupart sont dominants année 3. Alors déjà, je pense qu'Adrien s'est fait un ami en la personne de Ricky Rubio, parce que, alors certes, c'est pas Chris Paul, mais c'est quand même un bon meneur qu'ils ont pu avoir l'année dernière. Et puis Adrien a insisté sur le fait de pas griller les étapes. Trop tard, ils l'ont fait, ils ont amené Chris Paul, en fait. Et on le sait tous que quand tu fais une reconstruction, le moment le plus dur, c'est celui où tu appuies sur le bouton et où tu dis officiellement, on n'est plus en construction, on joue quelque chose. Ils l'ont fait en amenant Chris Paul. Et là où pour moi, où c'est déjà la dernière chance pour DeAndre Ayton, c'est que, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par dernière chance? C'est qu'en fait, pour moi, là, il a son dernier atout, il peut pas le griller, parce qu'on a déjà passé cette étape, ça y est. James Jones, depuis qu'il est GM, je rappellerai que James Jones, le GM, n'a pas sélectionné DeAndre Ayton, que depuis qu'il est GM, il montre peut-être une appétence pour un peu le jeu analytique, ce qui fait que concrètement, DeAndre Ayton, c'est pas le type de joueur qu'il va ramener. Cette année, on a perdu Aaron Baines, dont DeAndre Ayton, il aura le pick and roll de Chris Paul, mais il est surtout dans une situation où il doit produire absolument. Pourquoi ? Parce que certes, il a eu Ricky Rubio. Alors, peut-être ça fait pas rêver, mais pour moi, je pense qu'on peut juger un pivot sur Ricky Rubio. Et le problème, c'est que à la fin de cette saison-là, il sera éligible pour l'extension. Et c'est des moments où tu vas devoir faire des choix du côté des Suns. Et on pourra pas dire « Ah, c'est ta première vraie année, regardons ce qu'on a année 4. » C'est un premier choix de la draft. Année 4, c'est déjà, tu dois avoir des certitudes. Par ailleurs, quand je regarde les recrues, etc., il y a 8, en effet, il y a personne sur son poste, et c'est le favori pour le MIP à Vegas. Tout le monde attend qu'il explose avec Chris Paul. Donc, si on n'a pas d'explosion, il va falloir se poser des questions du côté de James Jones. C'est une assurance. C'est une certitude, pardon.
Adrien.
Très bien. Oui, alors bah pour le côté, on a décidé d'appuyer sur le bouton. Effectivement, on a décidé d'arrêter le tanking, d'aller chercher les hauts choix de draft, mais on n'en est quand même pas encore du côté de Phoenix, non plus à viser l'avantage du terrain en playoff ou que sais-je, donc il y a encore un peu de temps. En ce qui concerne effectivement cette évaluation, cette extension du contrat rookie, j'aimerais bien savoir si on devait parier de l'argent, si mon adversaire serait prêt à mettre de l'argent sur le fait que Phoenix ne prolongera pas DeAndre Ayton très proche du max ou au max. Ça me semble à peu près évident qu'ils vont le faire, même si la saison est un peu plus compliquée. Et puis effectivement, comme il l'a dit, les probabilités sont assez élevées. Il y a tout pour lui. Et même si ça ne se passe pas aussi bien qu'il va chercher un MIP ou que sais-je, les probabilités pour que ça se passe très mal est très très faible. Et je pense que justement, on va pouvoir lui laisser 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en termes de finances aussi, puisqu'on parle aussi de cette temporalité-là, du côté de Phoenix, on est encore relativement sain, même si on a absorbé le contrat de Chris Paul, il s'inscrit justement dans cette logique de entre deux. On n'est plus dans le tanking, on n'est plus, ça y est, sur le pied sur le champignon à viser le titre. On est entre deux et justement, on se garde cette flexibilité de voir jusqu'où on va pouvoir aller avec Chris Paul. Et si ça marche pas, on a encore un troisième temps pour rebondir. Donc pour moi, on n'est pas encore sur le dos au mur, disons.
Juste pour conclure, on remarquera que quand les équipes appuient sur ce bouton, elles ont plus de troisième temps, en fait. Elles vont faire des décisions parce que la plupart du front office va être mis sous pression. Ensuite, alors, il sera probablement prolongé, DeAndre Ayton. Mais le truc, c'est que si on prolonge DeAndre Ayton et que ce n'est pas un pivot borderline All-Star, je rappelle que c'est un premier choix de draft. Alors, on peut débattre sur Doncic, etc. Bref, c'est un mec qu'on a ramené pour être dominant aux côtés de Booker. Si on le prolonge dans un peu plus d'un an, mais qu'on n'a pas joueur borderline All-Star avec Chris Paul à côté, oui, il aura peut-être grillé sa dernière chance. En tout cas, une belle carte.
Après une dernière chose, après, effectivement, il faudra couper court, mais quand même, on parle là d'Ayton comme si, pour l'instant, il n'avait rien prouvé du tout. Je tiens quand même à rappeler que quand Ayton joue, c'est très solide et c'est très sérieux. Pour l'instant, c'est un très bon joueur qui, certes, n'est peut-être pas dans les standings déjà dominants, mais c'est un pivot qui, pour l'instant, est... Alors, il est peut-être pas borderline, mais il est le petit tiers juste en dessous d'All-Star. À l'Ouest, il fait des performances plus qu'honorables.
J'ai une question pour mettre Adrien.
Dites-moi.
Pourquoi Phoenix a drafté un meneur en 10e position, un pivot en 10e position à la draft 2020?
Ah bah, mon adversaire l'a déjà dit, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur ce poste et qu'effectivement, DeAndre Ayton, puisque pour l'instant, il faut un peu faire attention à sa santé et puis qu'en plus, on est en manque de rotation, on va devoir quand même trouver des minutes pour quelqu'un d'autre. Donc, on a besoin de joueurs serviables à ce poste-là pour quand DeAndre sera assis sagement sur le banc, tout simplement.
Très bien, très bien, très bonne réponse. C'était un argument qui n'a pas été mis en avant, je te le trouve intéressant, moi, qu'ils aient drafté un pivot en 10e position, personnellement. En fait, je suis assez embêté parce que le principe, c'est d'être convaincu et pas qu'on parte juste avec notre idée de départ. Mon idée de départ, c'est que non. Mais l'argumentaire de Ben m'a...
Il est bon, hein.
M'a convaincu,
il,
en fait.
Il est bon, comme moi tout à l'heure.
Il m'a convaincu, en fait. L'argument et tout ce qu'il a dit est vrai et se retrouve, bah, depuis qu'on suit la NBA, on le voit. On n'est jamais dans un entre-deux, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en NBA. Et puis, je pense qu'on avait tous, je pense, Booker et Chris Paul dans notre DH20. T'as deux joueurs top 20 NBA. Tu vises le top 5-6.
C'est la bascule, en fait, Ayton.
On peut dire ce qu'on veut. Ayton, il doit être cet intérieur dominant qui va te permettre, quand tu vas jouer Utah, quand tu vas jouer Denver, quand tu vas jouer les Lakers, bah, de pas te faire atomiser. C'est un premier choix de draft. Tout le monde parle de Luka, tout le monde parle de Trae Young. Mais le premier choix de cette draft, c'est DeAndre Ayton. On en parlait comme the next big thing en termes d'intérieur. Ça devait être l'intérieur, un intérieur dominant. En cliché, hein, ce mec en allez, quoi, 22-10 dans ce, 22-10 offensivement, qui en plus maintenant
il est en 18-12 hein, ouais, cette année, c'est pas si loin. Hein.
18-12, il commence enfin, 10-11
peut-être.
Il commence à tirer à 3 points, mais je pense que voilà, il doit prouver que bah il peut encore plus s'écarter et que il doit aussi s'améliorer défensivement. Ça va être clé pour Phoenix. Mon idée de départ, c'est que non, j'abandonne jamais sur un joueur qui est dans sa troisième année, mais la temporalité, les choix qui ont été faits, la concurrence. Et l'argumentaire de Ben m'a convaincu, donc en fait je vais lui donner le point.
J'accepte la défaite.
Je vais lui donner le point.
Merci.
Voilà. Et c'est encore moi. Je suis un juge qui aime les longs dossiers. J'aime prendre plusieurs affaires en même temps. J'ai beaucoup de dossiers en même temps. Et maintenant on va monter, on va aller dans le nord-ouest du pays, du côté de Portland. Portland, la question est la suivante. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour que Dame Lillard remporte le titre de MVP?
Et c'est encore moi qui défends.
C'est toi, Adrien, de défendre le cas Dame.
Encore une fois, dans le terme de la question, c'est l'année ou jamais. Ça, je ne pense pas. Il y a encore quelques temps pour Lillard. Donc, ça se passe en. Bon, il y a plusieurs points, évidemment, à développer. Bon, déjà, il y a le retour de Melo avec les Braids. Donc ça, déjà, à tout moment, il peut devenir MVP. Mais plaisanterie mise à part. Voilà, moi, j'ai pas trop le terme
de séance.
Je n'aime pas trop le terme de « ou jamais », en fait. Si demain, on en a beaucoup parlé un peu tout au long des quelques équipes qu'on a mentionnées, on a un trade, par exemple, autour de CJ McCollum pour amener une autre superstar, éventuellement ce fameux barbu que tout le monde voit, que Portland devient tout de suite une très grosse plateforme. Ça peut arriver cette année, ça peut arriver l'année prochaine, ça peut encore arriver dans 3 ans. Lillard, il sera encore là, il sera encore au niveau et il peut se retrouver MVP à ce moment-là. Est-ce que effectivement cette année, il y a une possibilité? Oui, également. Ce sera pas la plus petite cote non plus, hein, on va pas non plus se mentir, c'est peut-être pas Lillard le favori, mais il y a des beaux ajouts dans cette équipe de Portland avec notamment Robert Covington, mais même des Giles, Kanter, Derrick Jones qui vont étoffer l'effectif pour notamment gagner plus de matchs en saison régulière. Donc déjà, il peut le gagner. Mais je ne pense pas qu'on lui en tiendra rigueur et qu'on se dira, s'il ne le gagne pas maintenant, c'est fini. L'effectif de Portland est certes plus intéressant que l'année dernière, mais on n'est pas non plus sur une équipe que tout le monde voit top 3 à l'Ouest, loin de là même. Il y en a qui peuvent même se douter de leur place avec l'avantage du terrain. Donc, même si le MVP se joue sur la saison régulière, que je pense qu'ils vont gagner plus de matchs, il me semble que c'est encore possible que l'effectif s'améliore et qu'on ait d'autres possibilités dans les années à venir pour que Lillard remporte un MVP éventuellement.
Ben, tu as la parole.
Petit quiz, je fais intervenir les personnes. Petit quiz, quel âge a Damien Lillard? Il a 30 ans. Je vous donne la réponse. Combien de joueurs 90. De 30 ans et plus ont gagné le MVP sur les 20 dernières années?
Zéro.
Steve Nash.
Bah non, il y a LeBron.
Steve Nash, c'est tout. Ça fait donc, il faut donc remonter à 2006 pour avoir un joueur de 31 ans qui remporte le MVP. Alors passons sur cette temporalité qui
anomalie historique
que Damien Lillard est un petit peu et commence peut-être à passer au moment où ça devient un petit peu difficile. Alors oui, cette question elle est géniale parce qu'elle sous-entend l'année ou jamais que Damien Lillard. Oh là là. Mais non, en fait, Damien Lillard, il n'a jamais été proche du MVP, en fait, tout simplement. Il n'a jamais été top 3 au vote du MVP. Et alors, c'est un joueur qu'on met top 10, qui est incroyable, Damien Lillard, mais il n'est pas dans cette stratosphère. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Adrien. Je vais me rapprocher des statistiques depuis 2000. Je continue. Depuis 2000, 21 MVP. Depuis 2000, sur ces 21 MVP, 16 ont été meilleurs bilans de leur conférence. Alors, c'est peut-être pas cette année. J'ai quand même du mal à voir avec la situation au niveau salary cap des Blazers, ce qu'ils pourraient faire dans 2 ans. Parce que je rappelle quand même que la fin de contrat de Damien Lillard, c'est 50 millions. On se moque beaucoup d'autres joueurs, mais 50 millions, Damien Lillard va probablement bien vieillir, mais c'est 50 millions. Comment construire un effectif top 1 NBA dans quelques années? Parce que 16 sur 21, je rappelle. Les 5 autres, vous allez me dire, oui, il y en a 5 autres, oui. Il y en a 4 qui étaient deuxième. L'exception, c'est Russell Westbrook qui profitait de son année MVP d'un narratif que n'aura jamais Damien Lillard, tout simplement. Ensuite, une chose, un deuxième critère, le PER, cette fameuse stat, le PER de Joel Oettinger, qui alors est critiqué. Il y a un truc qui est fascinant, c'est que sur les 11 derniers MVP, il y en a 9 qui étaient numéro 1 NBA au PER. Damien Lillard n'a jamais été top 5 de sa carrière. Il a été 5e cette année. Il n'a pas un profil d'un mec qui peut être premier au PER. Deux exceptions, Derrick Rose, Stephen Curry, ils ont le meilleur bilan de la Ligue cette année-là. Donc en gros, pour être MVP actuellement, faut être premier au PER ou meilleur bilan de la Ligue. Damien Lillard ne sera jamais premier au PER et premier bilan de la Ligue, il faudrait qu'il se passe un tremblement de terre. Donc non, j'y crois pas trop à cette théorie de Damien Lillard MVP. La soupe du terrain ouvert pour les MVP, en vrai, on me la sort tous les ans, mais c'est toujours un top 5, top 6 NBA qui le gagne.
Qu'est-ce que tu as à dire, Adrien, contre l'argument?
Oui, bien sûr. Je vais remercier mon adversaire qui, en relisant la question, est-ce que c'est l'année ou jamais pour que Lillard remporte le MVP? Si il ne le remporte pas, il n'a aucune chance de le gagner, alors ce n'est pas l'année ou jamais, tout simplement. Peut-être que ce sera jamais, mais ce ne sera pas cette année non plus.
On joue sur la sémantique.
On joue sur la sémantique, hein, d'ailleurs. Parce qu'en fait, moi, je recopie pas toujours les questions à l'exact. L'année ou jamais. En fait, moi, mon problème avec l'année ou jamais, je me répète, c'est que ça fait mon impression que Lillard, c'est une anomalie historique qu'il n'ait pas de MVP. Non, en fait, c'est normal que Lillard n'ait pas de MVP. Il est juste, c'est un jusqu'ici, excellent joueur, mais il n'est pas à ce niveau-là.
Ouais, la question, elle, pour trancher, elle est dans la compréhension de la question, en fait. Je suis assez d'accord sur le. Pour moi, c'est pas une anomalie historique que Damien Lillard ait jamais été MVP. Est-ce que Damien Lillard a déjà été top 5 NBA? Est-ce qu'il a déjà été même le meilleur meneur de la ligue à un moment?
Il y en a qui peuvent commencer à le penser sur le meneur.
Possiblement, mais c'est aussi parce que peut-être à un moment où Steph Curry était blessé. Pour moi, il a jamais été meilleur que Steph Curry, Damien Lillard. Ce qui prouve aussi le niveau de Steph Curry. Au passage. Mais, Pour moi, il sera. Je suis assez d'accord avec la petite dernière intervention d'Adrien. En fait, il le sera jamais.
Donc, s'il l'est pas cette année, c'est pas grave.
S'il l'est pas cette année, bah.
Ouais,
c'est
mais son
pas
rôle,
grave.
C'est de défendre l'équipe. Là, il tue son mec. Non mais.
Oui, mais il défend son point de vue, qui n'est que pour lui. En fait, vous êtes d'accord tous les deux, sauf que vous n'êtes pas d'accord sur vous êtes d'accord sur le fond, mais vous n'êtes pas d'accord sur la forme. Et donc, en gros,
c'est l'interprétation
c'est difficile,
de la question.
C'est difficile pour
procédure.
Moi.
Difficile pour moi. Procédure, monsieur le juge. Il y a un non-lieu.
C'est difficile pour moi de départager. Je suis très sensible à l'analyse statistique de Ben, qui est vraie. Et on remarque, en plus, avec le PER, les exceptions, c'est deux meneurs. Parce que les meneurs, ils scorent jamais bien au PER. Historiquement. C'est pour ça que c'est une stat qui est mise un peu en suspens par d'autres. C'est plus intéressant d'évaluer les meneurs au PER que les pivots, parce que les pivots, ils sont tous bons au PER. Mais je pense que je vais lever la séance et je vais aller me retirer avec les 10 autres juges sur cela. Vraiment, c'est assez compliqué parce qu'il y a un vice de procédure dans la question.
C'est ça, je demande un non-lieu acquittement de mon client.
Exactement. mais par contre, je pense qu'il y a une pression du côté de Portland. L'effectif, pour moi, je suis pas trop d'accord avec Adrien, il a été renforcé. Il y a eu des moves qui ont été faits. Il y a un premier choix de draft qui a été balancé pour Robert Covington. Il y a un retour de Yusuf Nurkic. Il y aura pas la narrative de Dame est tout seul avec CJ et Wanyan Gabriel qui start en playoff.
Après, personne n'est au top 3, tu vois, à l'ouest, même. Enfin. Non. Moi, je me suis dit que quand je regarde mes éléments, Jokic a plus de chances d'être MVP que Lillard, en fait.
Parce qu'il score bien au PER.
Et qu'il aura un meilleur bilan. Et le truc du PER, ça m'a retourné le cerveau, honnêtement.
Ouais. Ok.
Très bien.
Bah,
je prends le non-lieu.
Il y a un non-lieu.
La suspension de séance.
Non-lieu,
parce que,
suspension
de séance.
Parce
qu'on va pas se mentir, Ben est très bon aujourd'hui. Hein. Donc non, je vais aller me reposer.
Les dossiers ont été travaillés. Là, je sens qu'il y a eu.
Il y a cherché des angles. Il y a l'expérience du premier épisode qui a été mis à profit. Donc voilà, donc oui, je vais me reposer un petit peu. Je vais te reprendre le fauteuil de juge Alan, puisque pour Sacramento, tu vas reprendre ta robe noire. La question du côté de Sacramento, elle est assez directe. Est-ce que Luke Walton sera le premier coach viré cette saison en NBA? Tout simplement. Donc, est-ce que Luke Walton sera le premier coach viré? La défense, cette fois-ci, elle est pour Ben. Ben, pourquoi Luke Walton ne sera pas le premier coach viré?
Les Kings. Oui, les Kings, ils ont cette mauvaise habitude d'écarter des coachs en cours de saison. Ils l'ont fait 4 fois au cours des 15 dernières années. Et depuis 2006, et leur dernières campagnes de playoffs, ils ont eu 11 coachs différents. C'est beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est énorme. Petit outil statistique, encore une fois, 3,6, c'est le nombre de moyennes, en moyenne, c'est le nombre de saisons passées par un coach sur le même banc NBA sur la décennie précédente, donc dans les deux des années 2010, 3,6. On me dira, oui, Popovich, Carlisle, etc. vont casser la statistique. On marque qu'à travers les décennies, c'est stable. Il y a eu une espèce d'anomalie dans les 90, mais en gros, c'est toujours un peu 3,5. Luke Walton est dans sa deuxième saison. Donc déjà, son éviction serait une espèce d'anomalie. Mais quand un coach se fait virer, c'est le sportif, c'est aussi le front office. Les Kings ont un nouveau GM, Monty McNair, un ancien Houston, disciple de Daryl Morey, un proche de Sam Hinkie. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder l'historique de ces deux GM-là. Il n'y a pas de limogeage précipité. Ils attendent. Alors, Kevin McHale a été viré, mais Kevin McHale, il est viré dans sa troisième saison, pardon. Et deuxièmement, Monty McNair, il a insisté sur la flexibilité cet été. Enfin, ce mois de septembre. Bref, cet automne.
À l'automne.
Flexibilité financière, mais aussi sur le terrain. On peut comprendre Bogdanovic, par exemple. Donc, je pense clairement qu'on peut comprendre qu'il va laisser carte blanche à son coach, comme a pu le faire Sam Hinkie avec un Brett Brown, pour tester les jeunes joueurs, les 5 les plus performants, etc. Est-ce que Luke Walton, c'est le meilleur technicien NBA? Non. Mais en l'occurrence, je pense qu'on peut croire en lui pour installer des choses. Monty McNair ne virera pas un coach en cours de saison, même si c'est pas son choix. Quel intérêt de virer ton coach quand tu n'as aucune ambition collective? Parce que, Alan l'a dit tout à l'heure, le potentiel de déflagration des Kings est assez élevé. Donc, pourquoi virer son coach? Je n'y crois pas trop. Il y a en moyenne 3 coachs virés par saison en NBA. C'est une moyenne qui a tendance à descendre et je vois pas pourquoi les Kings feraient ce choix-là. Le GM ne va pas le faire. Sportivement, il joue rien. Testons les jeunes joueurs, tout simplement. Et Luke Walton pourra peut-être être éjecté en fin de saison, mais ça ne sera pas le premier coach viré.
Très bien, on a entendu le réquisitoire de la défense. Parole à vous, Maître Alan.
Le problème avec ce qui a été dit, c'est que oui, ils n'ont rien à jouer, mais quand Luke Walton est arrivé, ils n'avaient pas rien à jouer. Ils sortaient d'une saison avec... Alors, c'est peut-être une saison, une anomalie, cette saison-là. La saison 2017-2018. Non, 2018-2019, pardon. La deuxième année de Daron Fox, l'année avec Buddy, la dernière année de Dave Yorger. Et Dave Yorger, il s'est fait virer pourquoi? Pas pour le terrain. Parce qu'en fait, il s'est fait virer parce qu'il n'a pas réussi à mettre en place et à développer certains jeunes. Il y a eu le problème Marvin Bagley, le problème d'autres soucis aussi, des vétérans qui jouaient. Et moi, en fait, j'ai l'impression que Luke Walton, je suis désolé, mais il a montré quoi depuis qu'il est arrivé coach en NBA? Ok, il n'a pas eu les meilleures situations, d'accord, mais c'est 129 victoires pour 189 défaites, c'est un petit 40% de victoires. Il n'a rien montré. Il n'a même pas montré la patte Warriors qu'il était censé avoir quand il est à l'arrivée de Golden State. Il prend des équipes et à chaque fois, elles sont moins fortes après que quand il les prend. Il a réussi à rendre les Lakers moins forts quand il les avait pris, ce qui n'était pas une mince affaire. Je comprends pas son projet offensif. Je comprends pas ses choix. Et moi, j'ai besoin de comprendre. Même quand je suis un front office, un GM, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux voir où on va, une ligne directrice. Et j'en vois pas. Il change ses line-up souvent. Peudil commence, ensuite Bogdanovic commence, pas de continuité, alors qu'il y avait une continuité dans ces line-up-là avec Dave Yorger. Et surtout, pour moi, le sort de Luke Walton, il est allié au sort de Marvin Bagley. Si Marvin Bagley progresse pas, le fusible, ça sera Luke Walton. Et donc, si Marvin, alors oui, il y a les pépins physiques, oui, il y a les blessures, mais il y a exactement comme avec Phoenix, le corollaire Luka Doncic, et si jamais c'est toujours assez simple pour le fusible est toujours le coach. Et à part Lloyd Pierce et Ryan Saunders, je vois pas de concurrence à Luke Walton.
Très bien, j'ai vu des notes du côté de la défense. Est-ce que vous souhaitez répondre?
2018-2019, je suis d'accord, c'est passé des bonnes choses du côté des Kings. Bah, si on est déçu par Luke Walton, on le vire avant le début de cette saison, en fait. Le fait de le reconduire prouve bien qu'on n'est plus dans un objectif de résultat. Marvin Bagley, son choix, il a été payé par celui de l'ancien front office. Un choix de draft, on le fait rarement payer par, je suis en désaccord avec Maître Alan, on fait pas payer les choix de draft ratés par les coachs. Les coachs, ils payent quoi? Ils payent une équipe ambitieuse quand on leur donne des outils qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Clairement, il a cité des noms, Alan, qui pourraient être éjectés beaucoup plus tôt. Enfin, dernière chose, un coach viré en cours de saison, je le répète, si tu n'as pas d'ambition, quel intérêt. Les Kings, le fait qu'ils changent souvent des line-up, c'est positif, parce que là, on est clairement dans une année d'évaluation des talents. Les Kings ont rarement montré aussi peu d'ambition depuis 2-3 ans. On sait clairement que là, on se projette sur la prochaine draft. Donc, il va tester des choses. Monty McNair va prendre ses petites lunettes, va voir ce qu'il y a dans l'effectif, et peut-être qu'il sera viré après. Mais en cours de saison, je pense que son job est sécurisé.
Vous voulez répondre quelque chose, Maître Alan, ou nous passons au verdict?
Non, c'est qu'on est peut-être pas d'accord sur le fait qu'il joue quelque chose ou qu'il joue rien cette saison. Moi, il joue rien, mais c'est de facto parce que il y a eu un turnover dans l'effectif et il y a pas de projet de jeu de la part de Walton depuis qu'il est arrivé, depuis un an. Je sais que c'est difficile de l'évaluer sur le faible échantillon, mais je me base aussi sur ce qui s'est passé aux Lakers. Je pense que son pédigré peut en pâtir, et voilà, c'est toujours simple de, moi c'est en sport, hein, je vais le dire, je suis fan du FC Nantes, c'est toujours simple de virer le coach, c'est un fusible qui fonctionne, donc même si je suis d'accord avec les arguments du le projet, c'est pas sa faute, on joue rien, mais c'est quand même facile si des joueurs commencent à aller voir le proprio, à dire non, franchement, ce qui fait, j'entends très peu de positifs de la part des joueurs sur Luke Walton. Je vois pas de patte, je vois pas de plus-value à ce qu'il a apporté, donc ça sera juste mon idée.
Très bien, le jugement est difficile à rendre, hein, je vais pas vous mentir, surtout sur la question du premier coach, parce que finalement voilà, il y en a peut-être d'autres, mais les arguments s'entendent des deux côtés. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a une chose que j'ai notée dans vos argumentaires qui est intéressante, c'est justement cette histoire de front office, de nouveau front office qui vient évaluer effectivement ces jeunes joueurs, etc. Et là où je trouve qu'Alain a été pertinent, c'est que c'est vrai que bon, on veut évaluer s'il y a rien, si on continue de rien avoir du côté de Luke Walton. En tout cas, de ne pas mettre en valeur ces joueurs, que ce soit donc Marvin Bagley, encore Fox, même ils ont drafté... comment il s'appelle?
Haliburton,
merci. Voilà, c'est des joueurs où on va avoir envie de les voir la balle entre les mains pour voir ce qu'on peut en faire sur ce projet, ce fameux projet sans ambition sur cette année, mais sur les années qui arrivent du côté des Kings. Effectivement, là, à ce moment-là, on aurait envie de dire au revoir à ce cher Luke Walton, mais c'est vrai qu'aussi en cours de cette saison post-Covid, je sais même pas si on peut dire post, mais en tout cas ça semble un peu un risque qu'un front office qui ne l'a jamais pris, je le vois mal le prendre également, donc c'est surtout sur cette raison là que je vais donner un petit avantage à Ben sur l'historique de ce front office qui pour l'instant n'a pas pris ce risque là, donc je vois mal venir, mais effectivement, j'entends.
Il est là pour évaluer le coach aussi, le nouveau front office. Hein.
C'est vrai.
Ouais,
c'est
mais
vrai,
Brett Brown, il a gardé son taf alors qu'il était nul en fait. Enfin...
oui, ce serait pas le premier qui garde. Jim Boylan aussi, hein, j'ai envie de vous dire.
Ah, mais ils ont prolongé. Donc, ils ont prolongé Aaron Fox. Il y a un choix. Il y a Bagley.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, en fait, en vrai, dans ma logique personnelle à moi. Je suis d'accord avec toi, Alan. C'est-à-dire, moi, je pense que je l'aurais viré cet été aussi. Mais
ouais,
je pense
donc
que
je suis un mauvais avocat. J'ai les bons dossiers, mais je suis un mauvais avocat.
Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est, en fait, là, le dossier est trop dur par rapport au contexte, en fait. C'est genre, je vois mal là une équipe qui n'a pas coupé un coach pendant cette intersaison le faire trop vite cette année. Au fond, moi, je pense que ça pourrait arriver. Mais, ouais, j'ai du mal à trancher sur cette histoire,
entend,
pour être honnête. Elle est très compliquée.
Il a envie de te donner un point, Alan. Il a vraiment envie de te...
Merci. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que c'est bien défendu, alors que le contexte m'amène de manière rationnelle à penser comme toi, Ben, et t'as très bien invoqué les arguments rationnels, mais de manière un peu plus... c'était difficile à défendre. Je trouvais que Alan,
c'est pas celui qui...
Allez, point pour toi, Alan.
Non, mais je pense que c'est pas celui qui... À Vegas, c'est pas lui, je pense, qui est le premier.
J'ai pas réussi à trouver.
Je pense pas.
J'ai des contacts à Vegas, mais j'ai pas réussi à trouver.
Je sais. Je pense que Sanders ou Pierce.
Après, faut dire que c'est difficile de dire qui va être le premier coach viré. C'est juste, pour moi, c'est plutôt un mec qui déçoit, en fait. C'est tout le temps ça. Et,
oui, c'est ça.
Et je vois peu le potentiel déception.
Est-ce qu'il aura un troisième job? C'est plus ça.
Ouais, je pense pas, non. Après, à part s'il fait un 0, s'il fait un 2-15 pour commencer, ouais, il peut se faire virer, mais autrement, pas trop.
J'aurais dû aller regarder le début de saison.
Je l'ai pas sous les yeux, du coup. Bon, écoutez, match nul. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde gagne, comme les enfants. Tout le monde a gagné.
Jacques Martin.
n'accepte pas cette semi-victoire.
Bon, je vais me reposer, moi, les gars, parce que je vais retourner à... Voilà, je vais arrêter de plaidoyer. Et avec ma question, et honnêtement, sans arrogance, j'ai dit que c'était la meilleure question des 30. Vit-on la dernière saison de Greg Popovich, pardon. Donc, on est du côté de San Antonio. Parce que oui, Greg Popovich se fait vieux, a beaucoup d'expérience du côté de San Antonio. Alan, pour toi, tu vas défendre les Spurs, donc non, ce n'est pas la dernière saison du mythe Greg Popovich. Je te laisse commencer.
Non, c'est pas la dernière saison de Greg Popovich aux Spurs, parce que les Spurs ne fonctionnent pas comme les 29 autres franchises NBA, selon moi. C'est une franchise qui a sa propre culture, qui a sa propre manière de gérer, sa propre manière de penser à la construction d'effectifs. Et je pense pas, on l'a vu avec certaines déclarations de Greg Popovich sur le jeu, sur le tout trois points, sur le tanking, sur la manière de construire les équipes, la manière de jouer, que bah c'était, alors ça pouvait faire un petit peu, on veut se la jouer différent, on va pas aller dans la on va pas faire comme tout le monde, mais tout le monde voudrait faire, c'est bah même si Greg Popovich est peut-être le meilleur coach du 21e siècle au basket, en NBA, même au basket, hein, et qu'il est le coach d'une des plus grandes dynasties sur du long terme en NBA. La doctrine, l'intelligentsia NBA de 2001 voudrait qu'on mette en avant ses principes de jeu un petit peu vieillots, qu'on lui reproche le fait, ça commence à sortir, qu'il ait préféré récupérer DeMar DeRozan plutôt que des jeunes à talent dans le trade de Kawhi Leonard. Mais en fait, pour moi, ça se réfléchit dans la culture Spurs. C'est-à-dire que ils pensent, eux, qu'ils ont leur propre moyen d'évaluer les joueurs à la draft, qu'ils ont leur propre moyen d'évaluer les joueurs à la free agency, qu'ils ont leur propre moyen. Je pense qu'ils doivent avoir leur système d'évaluation de joueurs, leur système de notation qui est différent. Ils leur font confiance. Et pour eux, le fait de virer le coach, d'en prendre peut-être un jeune pour un nouveau projet, c'est pas quelque chose de viable. Ils vont jouer comme eux le pensent. Ils vont se faire confiance sur une construction peut-être à court terme, court ou moyen terme sur de prochaines années, pour donner peut-être une dernière campagne de playoff à Greg Popovich. Ça se jouera peut-être pas le titre, ça se jouera peut-être même pas l'avantage du terrain, mais ils vont pas, je pense, se laisser aller à faire comme des équipes qui avaient une longue dynastie on fait avec certains trucs. Je pense qu'ils ont leur culture à eux et que ils réfléchissent pas du tout comme les 29 autres franchises NBA.
L'exceptionnalisme, Spurs, c'est ce qui a été mis en avant par Alan. Bah pour toi, Adrien, ça serait un cataclysme. C'est difficile à parler là tout d'un coup. Pour les Spurs, c'est la fin de l'ère Greg Popovich cette année. Pourquoi?
Alors, notre cher Alan a dit que virer Greg Popovich serait un cataclysme. Je pense pas qu'il sera viré, mais je pense plus à un départ. Et justement, je vais reprendre tout d'abord le cas DeRozan et effectivement le débat qu'il y a autour de ce trade. Je pense que ce que ça illustre bien, c'est surtout une tentative de récupérer un joueur qui est tout de suite qui peut jouer pour justement à garder cette espèce de culture de on va aller jouer les playoffs, on va essayer après cet échec relatif, on va dire, de la formation d'un jeune joueur qui était Kawhi et puis qui part pour différentes raisons. Ensuite, pour cette saison-là du côté des Spurs, effectivement, c'est compliqué en termes de motif d'espoir pour retrouver une dernière saison de playoffs, etc. Quelle est la hype chez les Spurs? Derrick White, Lonnie Walker, c'est quand même pas gage de grande qualité. On sait que Popovich aimait bien avoir des jeunes joueurs sous le coude qu'il poussait. Je ne sais pas si ces deux-là sont de cette trempe-là. Et ensuite, je pense que cette saison, qui sera très compliquée pour différentes raisons qui ont aussi été évoquées par ce cher Alan, cette saison aura raison de la motivation de Popovich. Après, donc les retraites, on sait ces dernières années de ses joueurs fétiches, bien sûr. Même ils ont perdu Patty Mills l'année dernière. Cet été, Bellinelli, qui était là depuis un petit moment, est parti. Duncan n'est plus assistant.
Il est là, Patty Mills.
Il est là, il est encore là, Patty Mills. Écoutez, tant mieux pour lui, ça fera. Il est revenu, effectivement. J'avais ma liste était voilà. Et effectivement, paf, tout de suite ça prend. Non, mais voilà, Tim Duncan quitte le rôle d'assistant aussi. Je pense que c'était quelque chose d'important. Et puis, même si c'est un sujet hors terrain, que c'est pas très ça fait jamais plaisir. On peut imaginer que, mais voilà, Greg Popovich, le basket, c'est toute sa vie, bien sûr. Mais après le décès tragique de sa compagne, je pense que il va bientôt avoir besoin de repos, que ce soit physique ou mental. La NBA évolue encore et toujours. C'est un travail difficile. Et effectivement, il a su évoluer tout au long de sa carrière. Et effectivement, c'est peut-être le meilleur coach. T'as parlé de basket, Alan. On pourrait presque parler de sport, tellement cette dynastie est impressionnante de ces dernières années.
Qu'un fan de Boston.
Je sais bien, j'ai les fans de football en face de moi. Mais en tout cas, parmi de ces gens-là, on va rien enlever. Et je pense pas que, même si cette saison il s'en va sur une saison un peu décevante, je pense que ça ne ternira jamais sa legacy, comme on dit avec un anglicisme un peu barbare, son héritage en français. Et je pense qu'effectivement, là, il va essayer une dernière fois de redonner à LaMarcus Aldridge un peu de confiance, de voir ce qu'on peut faire avec DeRozan, de donner une petite valeur aux jeunes joueurs. Et puis ensuite, il sera temps d'aller se reposer du côté de Greg Popovich et personne ne lui en tiendra rigueur.
Quelque chose à répondre, Maître Alan, par rapport à ce qu'a pu dire Maître Adrien.
Eh ben, je vais pouvoir faire le lien avec Bill Belichick, parce que c'est des coachs de grandes dynasties qu'on n'a jamais vu qu'on construit des dynasties qu'on a. Donc en football américain, Bill Belichick, on n'a pas vu dans la possibilité de reconstruction. On a toujours un petit peu peut-être mis l'accent sur les joueurs fantastiques qu'ils avaient. Et je pense que même si ce sont des coachs humbles et qui savent tout ce qu'ils doivent à leurs joueurs, il y a une part d'eux où ils ont peut-être cette envie aussi de montrer qu'ils peuvent coacher différentes équipes, qu'ils peuvent coacher différents types d'équipes dans la même franchise, hein, mais différentes équipes qui peuvent reconstruire, qui peuvent se réinventer. Et voilà, je pense que c'est ce sont des scientifiques de leur sport, des fans de leur sport, et qui même commencent même à s'adapter. Popovich a beaucoup critiqué le 3 points, mais même si voilà, il n'était pas tout le temps là dans la bulle et qu'il y avait beaucoup de délégations, ça commençait à jouer différemment du côté de San Antonio. Et je pense que peut-être que voilà, il veut se laisser encore 2-3 ans pour essayer de rebâtir les Spurs.
J'entends cet argument, mais j'ai envie de dire qu'il l'a déjà fait, en fait. C'est-à-dire qu'entre les Spurs du début de justement cette ère Duncan Parker, que beaucoup qualifiaient de chiant, et on peut le comprendre, et la fin de cette ère-là, le début de l'ère Kawhi, entre guillemets, il y a déjà eu beaucoup d'évolutions, et tout le monde salue justement cette capacité qu'a eu Greg Popovich à faire ça, et je pense qu'il serait capable. Popovich, 15 ans de moins, c'est sûr qu'il s'adapterait à la NBA moderne et qu'il rendrait aux Spurs, il les rendrait une nouvelle fois compétitifs. Mais je pense qu'effectivement, après cet échec de l'ère Kawhi, cette tentative de Rosanne LaMarcus Aldridge qui n'ira pas très très haut, je pense que pour tout le monde, on pourra se dire, bon, on a essayé ce qu'on a pu, on est à peu près arrivé au bout en termes de temporalité où on peut se dire, cette fois, c'est peut-être le moment, on va pas repartir sur 15 ans. Popovich, il peut pas être là pour repartir sur un projet sur même 5 ans, 10 ans. Donc, c'est peut-être le bon moment de s'en aller.
Je vais donner le point à Alan parce que je suis surpris que Adrien n'ait pas mentionné un truc, c'est les Jeux Olympiques. Je suis surpris que Adrien n'ait pas mentionné les Jeux Olympiques comme une fin comme une fin en apothéose pour Popovich, en fait. Je vous avoue que cette question-là, moi, ce qui me fascinait, c'est que j'étais pro Adrien au début, et avant que vous parliez, quand plus j'y réfléchissais, c'est pour ça que je me suis mis juge, plus je me suis dit, ah, il y a des vrais arguments contre. Donc je vais donner ce point-là par vice de procédure, mais non, en fait, j'entends ce que vous dites tous les deux. Moi, je me dis juste, c'est quand même une fin ultra triste, en fait. Enfin, si c'est ça la fin, elle est d'une tristesse pour Greg Popovich, c'est affreux. Après, il a encore.
Je suis bien d'accord, mais j'ai du mal. Est-ce que tu penses qu'il peut faire, justement, on peut trouver autre chose, on peut faire une meilleure fin. Est-ce que là, dans les quelques années?
Ouais,
d'où les Jeux Olympiques. Mais du coup, voilà, après les Jeux Olympiques, ça peut finir. Mmh.
Parce qu'en fait,
Mais oui, effectivement, on sera tous un peu tristes quand il va s'arrêter de toute façon, je pense. Fan ou pas fan de Spurs.
Je suis vraiment sensible à l'argument de il peut faire des choses, mais tu vois, on voit bien qu'il s'accroche un peu, mais que c'est peut-être la dernière saison. Donc, je vais donner le point à Alan, mais c'est assez compliqué. Tu aurais dit juste ces deux mots en Jeux Olympiques, Adrien, je te donnais le point. Mais.
Ah là là. Il a fallu que je me plante sur Patimix plutôt. Je sais pas pourquoi dans ma tête je l'avais plus.
Je sais pas, je trouve que pour un coach, qui peut-être sur le terrain NBA a peu à jouer, une breloque olympique, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a eu des questions sur est-ce qu'il va continuer après les JO. Donc, tu vois, rien que ça indique vraiment qu'on touche peut-être à la fin. Donc, voilà.
Mm-hmm. Très bien. Eh ben, c'est moi qui vais reprendre le fauteuil de juge pour la suite. Il faut qu'on avance. On parle beaucoup. On est bavard aujourd'hui sur cet épisode, mais on a encore 3 équipes à voir. Donc, allons-y, direction le Canada, avec Toronto, donc les Raptors. Et la question est une question un peu piquante, une question qui revient là en ce moment. Est-ce que donc, du côté de Toronto, on est l'équipe la plus piégée par cette prolongation de Giannis du côté des Bucks? Et celui qui va donc défendre les Raptors, c'est Alan. Donc, parole à toi.
Non, parce que pour moi, tout simplement, ils étaient sûrement dans la course. Alors la question, il faut la prendre dans plusieurs temps. Piégé pourquoi? Piégé parce qu'ils voulaient attirer Giannis ou piégé parce qu'ils voulaient battre Milwaukee avec Giannis? Ils n'allaient pas battre Milwaukee avec Giannis sans Kawhi, pour moi. On a vu les limitations de l'équipe durant les playoffs. Ils arrivent à pousser Boston en 7 matchs avec Kyle Lowry, vraiment très très bon, Fred VanVleet et compagnie. Mais la série n'aurait pas dû durer 7 matchs selon moi. Ça a été vraiment un très très bon travail de coaching et vraiment de cette équipe-là. Mais elle est pas piégée par la prolongation de Giannis sur le terrain, parce que elle a baissé dans la hiérarchie de l'Est, parce que Brooklyn va être meilleur, parce que les Sixers vont être meilleurs selon moi. Et eux, ils ont perdu Serge Ibaka, ils ont perdu Marc Gasol. Alors oui, du côté de Toronto, on va sûrement bien profiter des jeunes. Il y a toujours très hypé par les jeunes draftés par Toronto. Masai Ujiri est un très bon GM, il identifie bien les jeunes, bien les joueurs. Mais je regarde cet effectif. Et donc, si on comprend la question par la plus piégée par la prolongation de Giannis sur le terrain, face à Toronto, face à Milwaukee dans les prochaines années, non, parce que ils seront moins bons. Alors, si on comprend la question dans la plus piégée parce qu'en fait, ils auraient aimé attirer Giannis, là, je pense même pas non plus, parce que potentiellement, je pense que Giannis aurait. Alors oui, il y a le contact avec Ujiri, le côté international, le côté excellent GM, on va pas se mentir, qui peut vendre le projet de Toronto. Mais est-ce que Dallas aurait pas été une meilleure situation? Est-ce que Miami aurait pas été une meilleure situation pour Giannis? Est-ce qu'un plus gros marché aurait pas été une meilleure situation? Si les Clippers se seraient positionnés sur Giannis au lieu de prolonger Paul George, comment ça se serait fait? Je pense qu'en fait Toronto a gagné son titre en 2019. À 1000 baskets, un super haut niveau en termes de popularité au Canada, et je pense qu'ils sont bien là où ils sont. C'est même pas Kyle Lowry ne fait que prendre des années après années de niveau contrat. On sait pas combien de temps il sera encore dans l'Ontario. Il y a eu la prolongation de Van Vliet, il y a les questions autour de Siakam, il va falloir prolonger au Giannunobi. Je pense qu'il y a d'autres dossiers plutôt que le serpent de mer Giannis.
Très bien, donc on a une défense sur différentes interprétations de cette question. Voyons voir ce que vous pouvez rétorquer, Maître Ben.
Votre honneur, je vais me permettre de commencer cette plaidoirie par une petite revue de presse, un souvenir d'une autre vie. Mardi 15 décembre, Raptors HQ, le site SB Nation des Raptors, titre « Giannis est hors-jeu, quel plan B pour les Raptors ?» Mardi 15, toujours, The Globe and Mail, premier quotidien au Canada en termes de tirage. Le nouveau contrat de Giannis est un désastre pour les Raptors. Mardi 15 décembre, encore, un article sur le site de la télévision nationale. Que peuvent faire les Raptors maintenant que le rêve Giannis est terminé? Et enfin, vous l'aurez deviné, mardi 15 décembre, TSN, le diffuseur des Raptors, titre « Avec un Giannis hors des tablettes, que peuvent faire les Raptors ? » Un article qui commence par une première phrase, je cite, « L'intérêt des Raptors pour Giannis était un des secrets les moins bien gardés en NBA. » Tu m'étonnes. Les Raptors, alors, ils rêvaient...
Qui a écrit ça, monsieur ?
Qui ? les Raptors, ils rêvaient de Giannis. Et pourquoi c'est une tuile pour eux ? Pourquoi c'est une tuile pour eux et pas pour d'autres équipes ? Parce que mon confrère ici a cité d'autres équipes. Parce que les Raptors, ils avaient déjà bougé. Dallas, alors oui, c'était une bonne destination, mais qu'est-ce qu'avait fait Dallas pour en fait attirer Giannis? Quel mouvement avait été mis en place? Aucun. Miami, on avait prolongé Bam Adebayo. Alors certes, les fans de Miami, dans leur voilà, dans leur imaginaire, pensaient à cette possibilité d'associer les trois, mais
délire.
C'était compliqué d'un point de vue salary cap. On parlait des fois de Golden State. Quel argent? Les Lakers, ils ont gagné le titre et ils ont continué à attaquer le banc. Les Clippers, quel argent? Les Raptors, ils ont méticuleusement gardé du cap pour 2021 en laissant partir Ibaka, Gasol. Mon adversaire a parlé d'OG Anunoby. Il n'a pas été prolongé. Pourquoi? Pour économiser de l'argent pour 2021. Masai Ujiri, Alan en a parlé, il garde Giannis du coin de l'œil depuis 2013. Il voulait le drafter. Donc oui, c'est l'équipe qui a plus piégé parce que c'est celle qui avait déjà fait le plus de mouvements. pour répondre à la deuxième interprétation à laquelle je n'adhère pas de d'Alan. Alors il me dit pour battre Milwaukee sur le terrain, et ensuite il me cite toute une ribambelle d'équipes qui est déjà meilleure que Toronto. Bah oui, Toronto est meilleur. Et pourquoi Giannis c'est une catastrophe? Parce que pour entourer leurs jeunes joueurs, c'était l'espoir du talent générationnel qui revient. Il s'est dilapidé, donc c'est une catastrophe pour les Raptors. Merci.
Il est bon, le salaud. C'est pas une phrase très, très juge, très correcte, mais l'attaque avec les journaux était très bonne. Maître Alan, est-ce que vous avez une défense après ce réquisitoire?
Non, mais moi, j'aime bien qu'on utilise la presse, mais moi, j'aimerais savoir ce que pense vraiment mon adversaire. Je sais qu'il représente un lobby très puissant. Et donc, il ne parle pas vraiment sous ce gros. Ce qu'est le métier d'avocat, il le fait extrêmement bien. Mais moi, je pense qu'ils auraient jamais signé Giannis. Giannis aurait jamais été là-bas.
Mais c'est pas la question, cher confrère, c'est pas la question.
Mais c'est ma réponse. Mais c'est ma réponse. Je pense que, non, j'ai rien à rajouter. Je pense que le plaidoyer était très très efficace en face, et donc j'ai peut-être pas la position la plus simple, parce que c'est vrai que tout le monde en parle de Giannis, mais moi je pense que voilà, c'est j'ai essayé de mettre deux points pour mais c'est pas, non, j'ai rien à dire.
Juge Adrien, je peux juste préciser un truc. L'argument en apitoiement, je ne le recevrai pas, parce que j'ai laissé à toutes les parties présentes plusieurs jours pour sélectionner le rôle de leur choix. Certaines personnes s'y sont pris au hasard, au dernier moment, pardon. Donc, je n'accepte absolument pas cet argument-là. Cet argument me fait sortir de mes gonds. Je vous laisse la parole.
Non, mais il y a pas de souci. De toute façon, dans le jugement, depuis le début, ça a juste été un concéder le point quand c'est arrivé comme ça. Ça n'a pas été pour le récupérer par apitoiement. Donc, je pense effectivement que tu le récupères, mais c'est vrai que il y avait beaucoup d'équipes sur ce cas de Giannis, beaucoup de monde qui le gardait d'un coin de l'œil. C'est vrai que effectivement, peut-être que c'est Toronto qui avait avancé le plus de pièces déjà, et qui donc se retrouve peut-être dans une position un peu plus compliquée. Ils sont pas, je trouve que piéger, c'est fort dans la question comme elle est posée, puisque il y a quand même encore de quoi faire, comme l'a bien dit Alan. Il y a plein de dossiers du côté de Toronto, mais effectivement, c'est peut-être ceux qui sont le moins avancés sans Giannis avec eux. Par rapport à Dallas, par rapport à Miami, par rapport à ces équipes-là. Donc effectivement, je te donne le point, Ben, mais quand même, on va pas être trop pessimiste pour Toronto. Ah, ça non, donne non, cette non, impression, non. Cette preview. Mais effectivement, c'est sur ce cas de Giannis, le point est pour toi.
On précisera d'ailleurs que Masai Ujiri est toujours par signé. Hein. Voilà, s'il aurait attiré Giannis en plus. Bon, moi, je vais me reposer, messieurs. Il nous reste deux équipes et je vais...
Moi, je veux plus débattre avec toi. On va
parler du Jazz d'Utah. Alors, avant qu'on débute cet épisode, on a appris la prolongation XXL de Rudy Gobert. On ne s'était pas préparé pour cette question-là. Donc, vous comprendrez qu'on va débattre d'autres choses. Est-ce que c'est la meilleure équipe de la division Northwest? Est-ce que c'est la meilleure division de cette meilleure équipe de cette division, c'est mieux dans ce sens-là. Cette saison, le Jazz d'Utah, Alan, tu vas défendre les Mormons. Oui, c'est la meilleure équipe de cette division.
Ouais, c'est la meilleure équipe de la division pour plusieurs raisons. Déjà, on va, je pense, dans cette division, beaucoup mettre en avant les Nuggets. On est à un shoot. Un shoot. Que Utah passe Denver sans Bogdan Bogdanovic, avec des temps de jeu, mais ultra conséquents pour ses 2-3 meilleurs joueurs. Un Mike Conley, dont la première saison dans l'Utah a été cataclysmique. Un banc, mais des joueurs de G-League qui composaient ce banc. Juwan Morgan, George Niang, qui ont pris des mutes en playoff. Mie Oni. Donc je pense que on voit peut-être Utah trop bas et Denver trop haut, alors que pour moi, ces équipes, elles sont kiff-kiff. C'est 50-50. On l'a vu sur la série. Vraiment. On retient énormément les grosses pertes de Jamal Murray. Si c'est le Jazz qui passe, tout le monde parle de Donovan Mitchell comme un joueur vraiment un des nouveaux meilleurs guards de la NBA. On en parle vraiment à ce niveau-là. Un mec capable de mettre 57 points en playoff sur un match. Un mec qui porte son équipe. On a la prolongation. On a la prolongation de Rudy Gobert qui va sécuriser un petit peu le projet Utah. On a fait des petits ajouts, deux, trois petits ajouts qui font c'est rien d'exceptionnel, mais on n'aura pas Juwan Morgan, Mieoni et Justin Wright Foreman qui vont sortir du banc. Ou peut-être, ou alors ils seront en année 2 et ça, ils seront meilleurs, pas moins, ils seront pas, ce sera pas possible d'être moins bon en fait de sur ce niveau-là. Et puis il y aura Bojan Bogdanovic qui va revenir, qui va apporter de la stabilité. Joe Ingles aussi. C'est impossible que Joe Ingles soit aussi mauvais que l'année dernière. Joe Ingles était vraiment pas bon l'an passé et ça a vraiment fait du mal à Utah, surtout dans l'organisation de la seconde unit, parce que en fait c'était pas, en fait on a dû vraiment donner les clés à Jordan Clarkson pour que la seconde unit fonctionne du côté d'Utah. Donc je pense qu'un petit peu plus de un effectif qui avait pas mal changé, qui a mieux se connaître, Mike Conley en année 2, Bojan Bogdanovic en année 2 et sans blessure, Utah sera la meilleure équipe de cette division.
Ça a dû faire mal hein, de casser du sucre sur son petit Jamal Murray au profit de Donovan Mitchell. Je vous donne donc la parole, maître Adrien, pour la défense.
Déjà, la question, la meilleure équipe de la Northwest Division, c'est est-ce que c'est la meilleure équipe en saison régulière ou en play-off ? Là, on parlait à un shoot en play-off. Effectivement, c'est le cas. En saison régulière, il y avait deux matchs. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'est un peu plus de différence. Ensuite, on a beaucoup parlé des renforts. Mon adversaire a beaucoup essayé de trouver des points positifs sur l'amélioration de Utah sur cette saison régulière, mais avec beaucoup de théorie, si j'ose dire. Et je trouve que de l'autre côté, on a un peu plus de certitude, que ce soit déjà du côté de Denver. Je vous rappelle, votre honneur, Ben, que vous avez notamment cité Jokic comme favori pour le MVP, ce qui implique forcément un très bon résultat en saison régulière.
Il a dit plus favori que Lillard.
Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi aller au bout de mon propos. Donc, ce qui implique un éventuel Jokic MVP, une possibilité en tout cas d'une saison régulière au niveau top 1, top 2, top 3 de la NBA. Donc, ce qui sous-entend que ce serait compliqué pour une autre équipe de cette division d'être au-dessus. Ensuite, nous avons évoqué un peu plus haut le cas des Trail Blazers avec ce cher Damian Lillard qui se sont aussi eux renforcés de manière notable et qui n'étaient pas très loin non plus, un peu plus bas quand même dans les standings de cette année, mais qui ont des renforts notables pour la saison régulière, notamment avec ce fameux trade pour Robert Covington, cette signature de Robert Covington. Donc ça fait des vrais concurrents. Et la question c'est, est-ce que c'est donc la meilleure équipe ? On a parlé de 50-50 peut-être avec Denver, il y a le cas Portland, et puis une dernière chose, c'est quand on a fait notre DH20 et qu'on parlait des meilleurs joueurs, effectivement, Donovan Mitchell était peut-être en bas, mais sauf que du côté de Denver, encore une fois, on avait deux joueurs qui étaient dans ce DH20, et il n'y a aucune raison que Denver ne continue pas sur cette lancée à progresser, peut-être l'éclosion également d'un Michael Porter, donc je pense toujours que la meilleure équipe de la Northwest Division sera les Denver Nuggets.
Alors, monsieur, maître Adrien, je vous prierai d'être extrêmement vigilant avec les propos que vous me prêtez. Hein,
Parce qu'après, c'est retenu sur les réseaux sociaux et dans la presse.
Oui, c'est un exercice de style, hein, rappelons-le, c'est prévu.
Alan, tu as le droit de répondre comme
ouais,
vous avez
droit
le droit de répondre, comme d'habitude.
Tout petit droit de réponse. Je suis pas fan de l'intersaison des Nuggets. Je vais pas casser du sucre sur l'intersaison des Nuggets, mais je suis pas fan de ce qui a été fait. Je pense que l'effectif est meilleur sur les deux meilleurs joueurs. Mais entre 3, 4, 5 et 6, peut-être qu'Utah, si les joueurs sont à leur niveau, si les joueurs jouent, je pense que du côté d'Utah, ça sera sûrement plus régulier, plus fort, nuit après nuit en NBA, dans la saison régulière. Et donc, je mets l'assise sur ça. Je pense que Quinn Snyder aussi. Mike Malone a montré beaucoup de choses, mais Quinn Snyder est un très bon coach, je trouve. Et vraiment, il va savoir tirer le meilleur de ce qu'il a. Et si le meilleur est meilleur que l'an passé, bah, il saura vraiment l'élever. Et donc, cette équipe d'Utah, en plus avec son assise défensive, c'est une équipe vraiment qui est très sérieuse, qui est chiante à jouer nuit après nuit, qui gagne les matchs qu'elle doit gagner. C'est peut-être moins flashy que Murray Jokic, que le serpent de mer porteur, mais voilà.
Adrien, en deux mots pour conclure.
Non, pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de « si » dans cette dernière défense. Mm-hmm. Si ça se passe bien, si il joue, si il progresse. Écoutez,
si Michael Porter aussi.
on voit deux juges, hein, deux avocats qui ont un peu le seum de cette fée marcher dessus pendant les autres. non, alors, c'est assez compliqué parce que en fait, je suis d'accord avec, c'est vraiment l'argument de Suisse, mais je suis d'accord avec le fait que Denver s'est affaibli, en fait. Je pense que Denver s'est largement affaibli. Le truc, c'est que, enfin, Jokic est encore là. Enfin, il y a encore une assise, mais c'est vrai qu'ils se sont affaiblis. Je pense que je vais quand même donner le point à Alan sur Utah. Je pense que Utah est quand même un peu, par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai que McConley était dans le saut, ils ont des meilleurs joueurs de complément, Bogdanovic, etc. Je pense que c'est la meilleure équipe sur la saison. Et c'est là où je trouve très intéressant ce qu'a pu dire Adrien. On parle de saison régulière. Malheureusement, ça a recentré le débat, mais selon moi, pas dans l'avantage d'Adrien, mais je vais donner le point, je pense, à Alan, mais ça s'entend. Je pense vraiment que c'est deux équipes qui finiront pas à quoi, plus de 5 victoires d'écart, je pense.
Oui. Probablement. Puis on n'a pas cité Favors aussi, je crois qu'il y a Favors
qui arrive, Favors qui revient,
qui est de retour
à Utah et en saison régulière. Bon, ça fait encore plus une profondeur. Ils ont, effectivement, comparé à Denver, en fait, la profondeur avec tout le monde du côté d'Utah semble quand même plus importante pour cette saison.
Favors qui a donc complètement refusé le fait d'être un pivot titulaire NBA, ce que tout le monde attend depuis 10 ans. Enfin bref, passons. On va finir avec la dernière équipe de cette preview, parce que oui, aujourd'hui, on a pris du temps. Washington, question. Westbrook et Bill sont-ils... Je ne sais pas qui a écrit cette question, mais du coup, c'est d'un point de vue grammatical, ça devient un peu compliqué. En gros, est-ce que Westbrook et Bill, 6, 8, 7 ou 8e, ça fait peur en play-in ? Est-ce que c'est l'équipe qu'on ne veut pas affronter au niveau du play-in ? Alan, tu vas défendre ces Wizards et tu vas me dire que oui, c'est l'équipe qui fait peur pour le play-in.
Oui, parce que sur un setting de play-in, donc sur un setting raccourci, qui n'est pas un setting du meilleur des 7 matchs, je veux aller à l'Est dans des équipes entre 6, 7, 8, dans 7, 8, 9, 10 si jamais le 7 perd finalement le premier match et tout, un mini tournoi, une équipe à l'Est qui a Russell Westbrook et Bradley Beal, je veux pas les jouer. Je veux pas les jouer parce que ce sont des joueurs ce sont des joueurs qui vont assurer une assise offensive, qui vont une assise de playmaking, une assise au scoring, une assise d'expérience. On peut dire ce qu'on veut sur Bradley Beal. Il a déjà passé des tours de playoff. Donc, s'il faut jouer contre Orlando, Atlanta, ou une équipe un petit peu plus surprise, bah, je ferai confiance à cette équipe-là. C'est une équipe qui est avec Scott Brooks. Scott Brooks aussi dans la liste des coachs qui pourraient potentiellement se faire virer avec une année de contrat qui pourrait se terminer prochainement. Ça peut être pas mal. Donc, une volonté de tout jouer, de vraiment essayer de retourner en playoff. L'effectif est très top heavy, ce qui s'appelle aux États-Unis, très fort en haut, plus faible en bas. Mais le fait d'être top heavy, ça me dérange pas sur un setting, un match, ça me dérange sur 7 matchs.
Propre, Adrien. Efficace. Adrien, la réponse ?
Alors déjà, je vais revenir sur effectivement le côté grammatical, décidément, de la question. La question, quand on est en play-in, est-ce qu'on a envie de prendre Washington ? Je pense que la réponse dépend de si on admet que Washington est 7-8 et que donc on est une équipe plus basse, ou on est une équipe plus haute et auquel cas Washington est dans les équipes 9-10 et là, on prend Washington. Et je pense que la réponse n'est pas la même. Pour le coup, bon, c'est un secret pour personne, et je salue une nouvelle fois Pierre, je ne suis pas spécialement fan de Westbrook, et même si tu l'as dit, on n'est pas sur une série en 7 matchs, en fin de match, Westbrook n'est pas reconnu pour ses grandes prises de décision quand c'est un peu serré.
Toi, tu vas avoir des problèmes.
Je sais, et j'aurais eu plus peur si j'étais une équipe de en bas, entre guillemets, si j'étais 9-10, d'une équipe à base de Wall Beal que de Westbrook Beal dans cette configuration-là. Donc c'est pas eux qui me font le plus peur. Par contre, si je suis en haut, je peux comprendre effectivement. Ce sont des, comme tu l'as dit, deux joueurs qui t'amènent une assise offensive très très forte et qui peuvent te surprendre. C'est vrai. Ensuite, bon, quand même, dans cet effectif, on parle beaucoup de ce top heavy, mais là il y a le gap entre top et juste derrière, il est immense. Qui sont les meilleurs joueurs de Washington derrière Bill et Westbrook ? Ça doit être Thomas Bryant à peu près. Et ensuite, on peut espérer que Rui Hachimura continue de progresser. Et puis, on va citer des David Bertans et des Isaac Bonga, Robin Lopez, Ishmis. Voilà, c'est-à-dire que... Et puis, qui défend ? Excusez-moi, mais qui défend ? Qui défend dans cette équipe ? C'est le même problématique que l'année dernière, effectivement. Et donc, dans des séries de play-in qui ne sont plus de la saison régulière, parce que je pense qu'en saison régulière, effectivement, Westbrook Beal, ça va te faire gagner des matchs, c'est sûr et certain. Mais dans une optique de joute un peu plus ralentie, où il va falloir jouer beaucoup plus sur demi-terrain, c'est une grosse faiblesse pour Washington. Et je pense qu'effectivement, selon qui on est, Si on est une équipe beaucoup plus offensive, par exemple, on n'a pas spécialement peur d'eux. Ça va dépendre de si c'est le 7-8 à base de, je ne sais pas, qui pourrait se retrouver à cette position-là. Des Raptors, des Celtics, peut-être éventuellement, des choses comme ça. On ne sait pas. C'est compliqué. Le ventre mou à l'est est très homogène. Non, quand même pas. Oui, mais si on compte, on a déjà un peu évoqué. Donc, il y aura Milwaukee qui sera toujours présent. Il y a Philadelphie, il y a Brooklyn, il y a Miami. Il y a beaucoup d'équipes, il y a Indiana, il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre à ce moment-là et ça va pas se jouer à grand chose. Donc tu peux à tout moment te retrouver face à Washington. Et effectivement, je pense pas que ce soit le pire tirage. Effectivement, c'est mieux quand même que de tirer New York ou Atlanta, je pense. Mais ce n'est pas le pire dans une configuration play-in selon l'équipe que tu es.
Beaucoup de choses ont été dites. Je sais pas sur quel point vous voulez réagir, Maître Alan, Maître Guillaume.
Non, oui, non, très rapidement. C'est dur avec Russell Westbrook, mais tu préfères que ce soit Russell Westbrook qui a la balle dans les mains en fin de match ou que ce soit Evan Fournier ou Trae Young ou Victor Oladipo ou Malcolm Brogdon. D'accord, mais c'est des joueurs, mais c'est là on parle de 7e, 8e, c'est ces équipes-là qui vont être dans cette zone-là. On parle pas de KD, on parle pas de Jimmy Butler, on parle pas de Giannis potentiellement. Mais non, j'ai rien à ajouter. J'ai trouvé ma première intervention excellente en réalité.
Pour répondre à la question donc rapidement, la plupart du temps, je pense que je préfère que ce soit Westbrook qui ait la balle parce que sur les équipes où tu as cité des joueurs inférieurs, oui, non mais Bill peut l'avoir, mais justement Westbrook est pas spécialement reconnu même quand il avait Kevin Durant à côté de lui pour lâcher la gonfle. Oh, donc Bradley Bill, bonne chance.
Toi, t'es des.
Écoutez, je prends mon rôle à cœur.
Dangereusement.
Et après, pour Evan Fournier, pour Malcolm Brogdon, pour ces joueurs-ci, je pense que c'est des équipes où c'est plus collectif en fin de match, où on va plus respecter un système dessiné, et auquel cas on est moins focalisé, on est moins soumis au choix d'un joueur, d'un individu. Et je pense que ça ne joue pas en la faveur de Westbrook, même si il est aussi capable d'en mettre. Je vais quand même un peu adoucir, justement, je vais faire attention à mes DM. Voilà, ça reste Russell Westbrook, il peut te le mettre, mais c'est pas celui, en l'occurrence, c'est pas forcément lui qui me fait le plus peur pour répondre à la question.
Je me permets une petite vue collale, tout ce qui est chrono, on a totalement oublié. Qui serait donc, selon vous, Maître Adrien, l'équipe qui fait la plus peur dans ce... Voilà. J'aimerais bien avoir peut-être une alternative.
Alors, je me permets de vous demander de préciser la question, selon qui, si je suis 6 et que je dois taper un 10 ou...
Les deux cas,
7, 8,
9.
Les deux cas.
Alors, si je suis plus...
Ça va bégayer.
Si vous écoutez, ça demande un temps de réflexion. Haute. Si je suis une tête de série haute, je pense que j'ai plus peur de pétards ambulants tel Atlanta qui me font un peu peur. Je pense que Chicago sera chiant à prendre aussi également. Il faut faire attention éventuellement à d'autres. Mais effectivement, ce cas-là, c'est le cas où effectivement, je pense que Washington est plus compliqué. Celui-là, je l'admets. Mais dans l'autre, par contre, si je suis en bas, je préfère 1000 fois prendre Washington en 7-8 que justement si une équipe descend d'au-dessus.
Il y a 8 matchs maintenant, non mais...
En 7-8
Pardon, j'ai mal compris. Non, je m'excuse.
Voilà, si Washington en saison régulière finit 7-8 et qu'on a la configuration de tournoi que tu évoquais tout à l'heure, Alan, et que moi je suis donc une équipe 9-10, et ben je préfère prendre Washington qu'à peu près pratiquement tout le reste au-dessus à l'Est. Vraiment. Genre que ce soit même Indiana, qui peut-être vu un peu un tiers en dessous de toutes les équipes qu'on a citées, après derrière, même qu'Orlando, parce qu'Orlando, ça va défendre fort et les équipes de bas de tableau à l'Est ont du mal contre ce type d'équipe en général. Donc voilà, selon le cas.
Cet angle est bien de diviser la question en deux parce que je suis assez d'accord sur si on est une tête de série basse, je pense qu'on préfère limite prendre Washington parce que Indiana a la mauvaise tendance de battre toutes les équipes moins fortes qu'elle et ils vont détruire. Là où c'est
plus stable.
C'est ça, c'est stable, ils ont de la profondeur et il y a peu de en l'occurrence il y a beaucoup de joueurs de niveau similaire. Là où je penche peut-être du côté de Maître Alan, c'est qu'en réalité Russell Westbrook, même si c'est un voilà, il y a un aspect un peu pièce en l'air. Il y a quand même Bradley Beal derrière qui est un joueur top 20 d'après notre DH20. Donc deux joueurs top 20 contre la plupart des autres équipes. On sait à peine s'ils ont, enfin la plupart n'en ont pas.
Deux joueurs, Westbrook, je rappelle, était pas dans le
deux joueurs top 30, dira-t-on.
Ils étaient mentionnés dans les top 20.
Ouais, c'est, je pense que c'est trop de puissance de feu pour la plupart des autres équipes. Et surtout, sur deux matchs gagnants, ils peuvent peut-être se rater une fois, mais deux, ça me paraît difficile. Donc je vais donner oui, le point final à Alan.
J'aurais eu beaucoup de défaites.
Oui, j'y ai pensé pendant.
Non, mais écoutez, l'exercice est intéressant, mais effectivement, c'est sûr que Westbrook, honnêtement, il peut. En fait, il est assez fort dans les sphères hautes une fois que tu as lancé la pièce pour te gagner un match, pratiquement peu importe qui tu es en face. Et c'est ça qui peut faire peur.
Genre, si juste avec Bill. Si joue Orlando et Markel Fultz et Cole Anthony, c'est un peu. Ah.
Oh, il y a une hype Cole Anthony ce soir.
Il met des points en pré-saison. Quoi. Ah,
ça c'est toujours. C'est, ça. C'est toujours. Tony Rotten mettait des points en pré-saison.
Oh là là, on ressort les noms. Je crois que ça démontre que ça fait un moment qu'on parle. Ouais, on a totalement explosé le chrono aujourd'hui. C'était le plaisir de terminer les previews de cette année avec un exercice un peu différent. Donc voilà, on arrive au bout des 30 franchises. On est à peine deux jours maintenant de la reprise à l'heure où on enregistre après donc une pré-saison qui a été très très courte. Donc on va vite retrouver la NBA, on va voir quelles équipes vont un peu ajouter du grain à moudre à leurs avocats et à leurs contradicteurs. On a essayé un format un peu différent pour les previews. On espère que ça vous aura plu autant qu'à nous, parce que l'exercice, comme je le disais, était pas forcément évident, mais c'était plutôt amusant. En tout cas, moi j'ai trouvé assez intéressant au niveau de la gymnastique
intellectuelle. On a appris à penser contre soi-même.
Exactement, je sais pas pour vous, mais effectivement. En tout cas, on va se donner vite rendez-vous pour parler de cette saison NBA avec pas mal de choses à dire, je pense. Bonne saison à tout le monde. On sera bien sûr avec vous pour en parler donc sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Twitter @dunkhebdo. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les plateformes qui vous intéressent, à échanger avec nous. Merci aux fidèles du podcast. Bienvenue aux nouveaux qui vont peut-être découvrir la NBA avec cette saison 2020-2021. Et puis, merci à vous, messieurs, pour ce dernier épisode des previews.
De rien.
Merci
et bonne semaine. Oula. Bonne saison à tout le monde. Salut.
Bonne reprise.
Salut.